D'abord, je tiens particulièrement à vous remercier d'accueillir un petit bonhomme comme moi, un simple parent d'enfant handicapé, mais je préfère ne pas dire personne handicapée, personne en situation de handicap. Je préférerais que nous ayons un autre langage plus valorisant, personne vivant avec un handicap. Parce qu'il y a le mot vivant entre personne et handicap. J'ai eu 3 enfants, Sonia, ma fille aînée, puis Romain et Clément. Quand Sonia est née, elle allait bien et tout allait bien. Pour elle, toutes les portes du droit commun étaient ouvertes, la crèche, l'école, le primaire, le secondaire, l'université, et même quand ça n'allait pas, c'était prévu pour elle. Et puis, nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir un premier fils. Et très vite, sur le front de Romain, on a mis une étiquette handicapé. Et toutes les portes qui étaient ouvertes pour Sonia se sont refermées pour Romain. Nous nous sommes donc trouvés, et ça a été une grosse colère de ma part, ayant eu la chance dans ma vie professionnelle de vivre dans d'autres pays, 7 pays, je me suis dit, mais pourquoi ? 4 ans après la naissance de Romain, on nous avait conseillé d'avoir un 3e enfant, en nous disant, vous savez, c'est un accident. J'ai eu un 2e garçon qui s'appelle Clément. Et Clément est comme Romain. Il est handicapé. Romain et Clément sont tous les deux infirmes moteurs cérébraux. Ça veut dire qu'ils ont la liaison entre leur cerveau et leur capacité d'agir, de parler, de se mouvoir, ne fonctionne pas entre la tête et le membre. Romain était épileptique au dernier stade. Clément est infirme moteur cérébral et autiste. Voilà que j'ai un beau dossier pour remplir ma vie. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mes enfants. Énormément de chance. Car sans ça, ma vie n'aurait pas aussi fondamentalement changé. Et je ne serais pas avec vous pour échanger avec vous sur ce que pourrait être une société accueillante et accompagnante. J'ai beaucoup d'émotions. Un jour, avec Romain, nous le ramenions dans sa chambre d'un centre que nous avions créé avec ma famille, qui s'appelle Passerelle. Et dans la pièce, il y avait l'aide de vie de Romain, qui s'appelait Daphné, qui était avec nous pendant le week-end. Et puis à côté, il y avait Gloria, qui était l'aide-soignante du centre. Il y avait Romain et moi. Et tout d'un coup, à côté du lit de Romain, on était en train de le poser de sa coquille de fauteuil à la coquille de son lit. Mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma valise ? Et j'entends derrière moi une voix d'homme qui me dit, mais papa, elle est là, ta valise. C'était la première fois, à l'âge de 19 ans, que j'entendais la voix de Romain. Quelle ne fut ma stupeur. Daphné et Gloria étaient en petit tas d'émotions. Je ne vous dis pas, moi, dans quel état j'étais. Mais quelle a été ma stupeur de m'être aussi profondément trompée. Romain ne parle pas. d'habitude. Romain, en fait, était dans toute l'actualité un personnage exceptionnel, et rien que ces 4 secondes de parole m'a permis de comprendre qu'il comprenait tout dans le moment et qu'il était extraordinairement autonome. Et moi, avec mon épouse, nous avons fait qu'une chose, c'est d'essayer de le surmédicaliser en pensant que c'était ce qu'il fallait faire, de le surprotéger, de nous occuper plus de son handicap que de sa personne. Et là, j'ai compris que nous nous étions trompés. Alors, je n'avais plus de raison d'avoir de colère contre les autres, mais d'une colère contre nous. Qu'est-ce que j'ai fait de la vie de mes enfants? S'il y a quelque chose que j'ai envie de vous passer comme message, c'est que la première chose la plus importante pour nous, c'est de faire confiance à nos enfants, quels qu'ils soient. Et je peux vous dire que, quelle que soit la capacité de communication qu'il y ait avec eux, il faut toujours essayer de trouver le moyen de les faire parler avec nous, car ils ont énormément de choses à nous dire. Lorsque je me suis retrouvé, après que tout le monde a appris cette nouvelle, que Romain était dans l'actualité, que Romain était capable de penser, que Romain comprenait tout, l'ensemble du centre que nous avions créé, où il y avait 48 personnes infirmes moteurs cérébrales, tout a changé, et ça a changé pour tout le monde. Arrêtons de parler avec le handicap, parlons avec la personne. Au travers du dialogue que nous avons eu avec la personne vivant avec un handicap, j'ai compris, et particulièrement avec les personnes qui ne parlent pas, polyhandicapées, lourdement atteintes, qu'ils avaient beaucoup de choses à nous demander. Et la première chose qu'ils voulaient nous demander, c'est très simple, c'est d'être dans la vraie vie et pas à l'écart. Et en effet, moi-même, quand nous avons construit le centre de vie Passerelle, je me suis rendu compte que j'avais aussi un petit peu mis mes enfants à l'écart. Mais j'ai compris un jour que ce n'était pas le centre lui-même qui était à mettre en cause, c'était les portes du centre, parce qu'il ne fallait pas qu'elles soient fermées et qu'elles soient ouvertes sur le monde de tous. Romain, Clément et nombreux de leurs amis nous ont dit « on a envie d'être dans la vraie vie ». Et pour être dans la vraie vie, il faut combattre sa dépendance. Et qu'est-ce que ça veut dire, combattre la dépendance? Oh, c'est très simple. Combattre la dépendance, c'est accepter, et ce n'est pas facile, et c'est un effort très lourd, d'avoir des aides. Ça peut être des aides techniques. Moi, j'en ai une, aide actuellement, parce que j'ai eu la chance de devenir encore plus légitime, car une belle sclérose en plaques est arrivée sur mon crâne. Et bien ça, c'est une aide technique. il y a des aides humaines qui s'appellent l'accompagnement. L'accompagnement, elle aussi, elle fait partie de l'accompagnement. Mais la différence entre cette canne et l'accompagnement, c'est que la canne ne décide pas où je veux aller. C'est moi qui décide où la canne va aller. Eh bien, vous voyez, je crois que en France, nous avons besoin, à travers l'écoute de la personne, quel que soit leur dialogue, et je pense que si vous avez une commission de cette qualité, il faudra qu'au-delà de moi qui ne vais faire que de répéter ce qu'ils disent, vous l'entendiez de la bouche des personnes elles-mêmes, même si elles ne parlent pas. Pour être dans la vraie vie aujourd'hui, il faut faire de nombreux efforts. L'effort, comme je vous le disais, c'est d'accepter des aides, aides techniques, accompagnement. Ça, c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher d'une vie la plus normale possible. Mais ça ne vous donne pas pour autant d'autonomie. L'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie n'a rien à voir avec la dépendance. L'autonomie, c'est décider pour soi. Et décider pour soi, c'est de savoir qu'on a un choix. Un choix, aussi petit soit-il. Exemple. Si un soir, nous décidons avec Clément de regarder un film, j'ai deux solutions. Ou je choisis le film, et il n'y a aucune chance qu'il le regarde. Ou il démonte toute la bibliothèque de films, et il en choisit un, et il le regarde. Mais c'est lui qui l'a choisi. L'important, pour être autonome, quand on a à côté de soi de l'aide technique, un fauteuil, de la domotique dans la maison, une canne, il faut d'abord maîtriser cette petite technique, que ce soit le joystick d'un fauteuil, que ce soit de retenir les roues dans une pente, d'un fauteuil manuel. C'est de faire que les techniques, lorsque c'est accessible, on en aura l'occasion d'en reparler, vous permettent d'aller non pas où la canne veut aller, où le fauteuil peut aller, mais là où la personne a envie d'aller et avec qui elle veut aller. Avec l'accompagnement, c'est plus difficile. C'est d'autant plus difficile que... Vous savez ce que veut dire accompagnement ? C'est le partage du pain. Il faudrait qu'on revienne un peu aux origines. En fait, de temps en temps, l'accompagnement croit que c'est mieux de décider avec la personne. C'est moins long, moins difficile, et c'est plus simple, comme ça, ça va plus vite. Eh bien, je me suis rendu compte, parce que je m'étais trompé, qu'aujourd'hui, il faut que nous changions ce comportement de l'accompagnement. Et que l'accompagnement soit... deux choses. D'une part, pas du tout un gardiennage, mais au contraire, un partage. Et deuxièmement, que la personne doit apprendre à la personne qui l'accompagne à être accompagnée par quelqu'un qui n'est pas professionnel. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes accompagné que par des professionnels, vous allez être mis à l'écart. Vous allez être qu'avec des professionnels. C'est pas la vraie vie. Alors, l'accompagnement, aujourd'hui, a besoin d'apporter la capacité à la personne d'être dans la vraie vie et non pas à côté. C'est ça l'autonomie. C'est plus que l'autonomie, c'est la dignité d'une personne. La dignité d'une personne, c'est quoi ? C'est pouvoir se regarder comme étant un citoyen. En 1975, on a fait une loi pour nous dire qu'on était des bénéficiaires. C'était pas terrible. En 2002, on nous a dit qu'on était des usagers. Et enfin, en 2005, on nous dit vous êtes des citoyens. Encore faut-il dire et croire qu'un citoyen n'a de raison d'être que s'il est dans le droit commun et pas à côté. C'est ça le vrai citoyen. Lorsque j'ai été faire un film pour la CNH, qui est la Conférence nationale du handicap, je suis allé voir Rosine pour la filmer. Rosine est agrégée de maths, tétraplégique, trachéotomisée, dans un lit. Et elle me dit, tu ne me filmeras pas. Je lui dis, écoute Rosine, non, c'est pas possible. On est avec toute une équipe de télévision, c'est pas possible. Elle me dit, non, tu ne me filmeras pas. Parce que ça ne sert à rien que je parle dans ton film. Parce que si les gens me voient, ils ne verront que ma mocheté et n'entendront pas ce que je dis. En effet, Rosine me dit, je n'ai plus de dents. Personne ne passe un peigne dans mes cheveux et tu t'imagines bien que le rouge du bonheur n'atteint plus mes lèvres. L'équipe de télévision était abasourdie, émue et ont décidé d'aider Rosine. Un an et demi après, quand Rosine souriait, elle ne faisait plus peur avec ses dents. Un peigne était allé sur ses cheveux. Elle était sur un fauteuil électrique. Le rouge du bonheur a atteint ses lèvres. Et maintenant, elle a un mec. C'est ça, la vraie vie. C'est être beau pour être accepté par une société qui fera notre vivre ensemble. Mais de temps en temps, les efforts que l'on veut faire sont bien difficiles dans l'organisation de notre handicap en France. La première grande difficulté que nous vivons, c'est qu'institutionnellement, organisationnellement, et dans la loi de 2005, nous nous sommes trompés. Il est défini que l'on décrirait une personne vivant avec un handicap qu'à travers ce qu'elle ne sait pas faire. Je vous invite à faire votre curriculum vitae. en disant à votre futur employeur tout ce que vous ne savez pas faire, j'ai très peur pour votre embauche. Mais ça implique les parents qui ne voient que leurs enfants qu'à travers ce qu'ils ne savent pas faire. Ça implique à la société de ne voir la personne vivant avec un handicap à travers ce qu'ils ne savent pas faire. Et quand on va à Bacqueville-en-Foreau et que l'on voit dans cette blanchisserie, que l'on voit dans cette cabinet de AXA, ces personnes travaillées vivant avec un handicap, on s'aperçoit qu'elles ont 1000 fois plus de capacités qu'on ne peut s'en imaginer. C'est une erreur dramatique qui conditionne aujourd'hui et qui mérite de donner un deuxième souffle à cette loi de 2005 pour que l'on aide la société à regarder positivement nos enfants au lieu de ne les décrire que négativement. Alors il est évident qu'à travers un dossier de maison départementale du handicap, MDPH, eh bien, on ne va dire que ce qui ne va pas. Pire encore, on n'a pas compris le mot évaluer. Évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Lorsqu'on ne donne pas de valeur, on dévalue. Et la notion d'évaluer a été mal prise. La première chose que l'on fait dans une maison départementale du handicap, on va dévaluer, c'est-à-dire on va dire tout ce qu'ils ne savent pas. Puis après on dit, eh ben on vous reverra, faites votre projet de vie, c'est déjà pas mal difficile. Si on, au moins on avait pu, et puis après on vous orientera. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on s'est trompé, nous. Ce qu'il faut faire, c'est déjà demander à Romain, à Clément, ce qu'ils ont envie de faire. La première chose qu'ils ont envie, c'est d'être dans la vraie vie. Et puis, ne croyez pas qu'ils aient pas d'envie, même s'ils ne parlent pas. Un jour, je marchais avec Romain et Clément et leur fauteuil dans un village à côté de Paris. Et la maîtresse d'école, nous voyant très souvent avec ses élèves, me dit « Il faudrait que vous veniez expliquer dans l'école de mon fils » dans l'école, ce qu'ont vos fils. Ben, je lui dis non, c'est pas à moi de vous le dire. Ben, et c'est à qui? Elle me dit, je vais demander à Romain. Et elle me répond, Romain ne parle pas. Ben, je lui dis, oui, mais il a une autre manière de communiquer. Nous sommes allés dans cette classe de CM1 et j'ai appris aux enfants, dans la classe, à parler avec Romain. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les mains des enfants dans les mains de Romain. Quand Romain serre la main, c'est pour dire non. Quand Romain ouvre la main, c'est pour dire oui. Et j'ai appris aux enfants à poser des questions binaires, à expliquer les mots qu'ils avaient, qu'il posait, et pour savoir si Romain les comprenait. Au bout de 10 minutes, toutes les mains qui étaient sur Romain, chacun à leur tour de rôle, posait des questions à Romain. Ils sont rentrés dans leur famille le soir, ils ont dit qu'ils avaient vu Romain, mais ils avaient oublié de dire qu'il ne parlait pas. Le deuxième élément sur lequel je voudrais vous sensibiliser, c'est que si on a envie d'être dans la vraie vie, il faut que la vraie vie vous accueille. Et pour ça, c'est bien difficile à comprendre. En 1987, je suis devenu le premier président d'Andiscol, d'intégration. À cette époque-là, il y avait peu d'organisations, c'était des petites associations qui travaillaient, un peu avec la mairie, avec l'argent de l'EDF, et d'un seul coup, nous frappions à la porte de tel lycée, de telle école maternelle, et nous leur proposons à ce qu'un enfant puisse rentrer. Et de temps en temps, là où il y avait besoin d'aide, nous trouvions ce que nous appelions à l'époque les AIS. Les assistants d'intégration scolaire. On a bien fait. Car tous les enfants qui ont eu la chance d'avoir dans leur classe une personne vivant avec un handicap sont beaucoup plus riches que ceux qui ne l'ont pas eu la chance de l'avoir. Car le jour où ils sont devenus des maîtres, à la fin de leurs études, et qu'il a fallu accueillir d'autres enfants dans leur classe, ça a posé beaucoup moins de problèmes. C'est donc naturellement que les choses doivent se faire, et si nous cherchons à contraindre les uns et les autres à s'accepter, il faut comprendre que c'est une chance de vivre à côté de la différence, parce que ça rend beaucoup plus réactif, innovant et créatif. Dans la société, lorsqu'elle est confrontée à la différence, elle est plus forte, elle a compris. Elle est obligée de se remettre en cause. Et la personne vivant avec un handicap, et ça se voit particulièrement dans le soin, grossit énormément toutes les erreurs. Et ça nous permet de trouver des solutions qui ne vont pas uniquement servir à la personne vivant avec un handicap, mais à toute la société. Aujourd'hui, l'accessibilité, combien c'est important pour une personne âgée, pour une poussette avec un enfant. Mais l'accessibilité, ce n'est pas seulement un plan incliné vers une porte fermée. C'est en haut du plan incliné une porte ouverte avec un sourire, un accueil, un partage. Je crois que nous devons comprendre que la personne vivant avec un handicap est une personne comme nous et que la force qu'elle va nous apporter va être absolument fantastique. Nombreux de mes amis me disent toujours, vous ne vous rendez pas compte ce qu'il faut faire comme effort pour suivre le rythme de la vraie vie. Mais pourtant, on le fait si on a toutes les aides et si on participe. L'école de l'autonomie est quelque chose d'incroyablement important. Mais moi, parent, jusqu'à l'âge de 19 ans, Je n'ai même pas pensé que mon enfant pourrait être autonome, et en fait, il l'était. Et personne ne m'a guidé, ne m'a appris. Parce que quelle est la préoccupation d'un parent quand il entend l'annonce d'un handicap? C'est qu'est-ce que je vais faire? Que va devenir ma propre vie par rapport à lui? Et c'est là où tout commence. Mais le jour où l'on comprend et qu'on inverse complètement les choses et que l'on se dit que la vie de notre enfant vaut le coup d'être vécue, qu'à partir du moment où on lui donne envie d'être autonome et que cette autonomie, aussi petite soit-elle, c'est sa dignité, sa capacité de décider. Et la capacité de décider, c'est la seule capacité d'être libre. Si on décide à votre place, ce n'est pas vous qui êtes libre, c'est celui qui décide. Et quoi de plus important que le mot liberté? Dans notre société française, toutes ces valeurs nous ont amenés, dans ce même hémicycle, à travailler depuis 4 ans sur un chantier que je vais essayer de vous décrire rapidement. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur ce chantier, sur ces chantiers, je vous proposerai, nous avons écrit un livre que vous pourrez trouver chez Duno et surtout à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Première chose que nous proposons, c'est de donner des responsabilités à la personne vivant avec un handicap. Il faut la responsabiliser. Ça ne sera pas que la société qui ira vers elle. Ne le croyons pas, et si nous le croyons, nous avons tort. Il faut qu'il y ait une participation effective, responsable de la personne vivant avec un handicap. Le monde ordinaire a besoin aujourd'hui d'ambassadeurs du handicap en son sein. Pourquoi avons-nous tant de mal à trouver une accessibilité normale ? Pourquoi avons-nous tant de mal à vivre l'acceptation de l'autre? Pourquoi en avons-nous tant de mal à sortir de nos individualités? Parce que l'on ne connaît pas l'autre, parce qu'on ne l'apprend pas. Alors, nous avons pensé qu'il fallait créer cette responsabilité à travers un rôle important que nous appellerons les autonomiseurs. Ah, ça n'a rien à voir avec l'électroménager. Autonomiseur, c'est un ambassadeur du handicap dans la vraie société. Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'aider le monde ordinaire à accueillir la différence. Mais c'est aussi aider la différence à aller dans le monde ordinaire et dans le droit commun. C'est d'aider la collectivité territoriale à être accueillante et accompagnante. C'est d'aider l'hôpital à faciliter la trajectoire et à faire comprendre aux soignants qu'il doit accepter l'accompagnement, les aides techniques avant de soigner la maladie et de ne pas avoir comme client la maladie, mais la personne. L'autonomiseur, c'est une personne vivant avec un handicap qui a une expérience, qui a réussi à aller dans le monde ordinaire et qui va adjoindre son expertise. On a réuni expérience et expertise pour qu'elle soit une aide autant du monde ordinaire dans le droit commun que pour la personne, pour ne pas qu'elle soit à l'écart. Aujourd'hui, nous avons dans certains hôpitaux des autonomiseurs qui ont pris des fonctions d'accueil de la personne vivant avec un handicap dans l'hôpital. Alors avant, c'était quelqu'un qui se portait bien, qui ne connaissait pas bien le handicap. En très peu de temps, l'autonomiseur est devenu compétent sur l'hôpital. Il savait à qui il fallait s'adresser. Il savait à qui il fallait guider, vers qui il fallait guider la personne. Il savait convaincre qu'il ne fallait pas la faire trop attendre. Il savait aider les parents à leur dire comment ils pouvaient changer un enfant dans un service d'urgence. Ils étaient là pour rendre la vie plus douce, plus facile et aider les professionnels à comprendre ceux qui ont besoin d'eux. L'autonomiseur, aujourd'hui, on en a besoin partout, dans le commerce, dans les associations, dans les collectivités territoriales. Ce seront des titilleurs qui nous diront que ce trottoir est mal fait, que le transport n'est pas assez opérant. Ce sont des titilleurs qui vous diront qu'il n'a pas accès à la mairie pour un mariage et que dans la salle de mariage, ou à moins qu'il passe par le local des poubelles. Ce sont des titilleurs qui vont faire que lorsqu'on est aveugle, on peut avoir besoin d'aller à l'hypermarché. Ce sont des personnes qui vont enrichir la société d'un partage pour lui permettre de devenir accueillante et accompagnante. Pour ça, il faut que nous ayons confiance. Et nous proposons de ne pas mettre ça sur le dos de tous les services administratifs, les uns avec les autres. Hier, avant-hier, il y a peu de temps, j'étais à Caen, au Havre. J'étais hier à Orléans. Eh bien, chaque fois, lorsque nous parlons de ça, je vais avec quelques autonomiseurs et je vous invite à accueillir un jeune autonomiseur qui vous parlera de ce qu'il a et de ce qu'il vit et comment. Et vous verrez, vous ressortirez 100 fois plus riche que ma simple parole. Mais pour ça, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que nous trichions. Nous sommes dans un monde qui dit il faut faire l'inclusion. C'est vrai, une bonne idée. Mais moi, je n'aime pas le mot inclusion, parce que ça valide le mot exclusion d'avant. Car quand on est à l'école et qu'on vous refuse, Et c'est après qu'on se dit, tiens, il faudra réinclure. Mais c'est 10 fois plus difficile de réinclure si... Et dans les pays, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc et Nathalie qui étaient dans mon cas. Marc et Nathalie sont partis en Angleterre. Ils avaient 3 enfants, une fille et 2 garçons handicapés. Et quand ils sont arrivés à Manchester, ils étaient dans un IME à côté de Paris. Et quand ils sont arrivés en Angleterre, ils étaient exactement dans le même cas que mes enfants. On ne pouvait pas dire qu'ils ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on les a tout de suite mis à l'école. Ce qui est intéressant, c'est que 15 jours après être rentrés dans l'école anglaise, tous les deux sont devenus propres. 2 ans après, Marc et Nathalie ont dû revenir d'Angleterre. Ils se sont fait refuser l'école. Et ils sont retournés à l'IME. Et 15 jours après, tous les deux sont devenus sales. Parce que on n'a pas pensé à leur dignité, à leur autonomie. Il faut que nous ayons, comme le disait Vincent, si vous voulez que je vous dise ce qu'est l'autonomie, pour moi, l'autonomie, c'est que tout le monde autour de moi ait envie que je sois autonome, me permette de décider, me permette d'être dans la vraie vie et d'y participer à part entière. Vincent, 17 ans, trisomie 21. Pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas tricher ? Parce que je suis allé étudier l'énorme travail que font aujourd'hui les maisons départementales du handicap. Énorme, mais pas dans le bon sens. On a étudié plus de 30 000 dossiers et on s'est aperçu que la moitié d'entre eux n'avaient rien à faire dans une MDPH. Parce que c'est tellement simple de dire on n'a plus le RSA, il n'y a plus d'autre solution. Alors on n'a qu'à dire qu'on a mal au dos. Alors nous pensons que ce n'est pas de la faute des médecins. Ce n'est pas de la faute des administratifs. Ce n'est pas de la faute des MDPH. Et la CNSA nous le fait savoir tous les ans. 96% des personnes aidées par une maison départementale du handicap n'est pas vue. Parce que on ne prend pas le temps de voir mon Romain et mon Clément. On ne vit que par dossier. Et qu'est-ce qui fait les dossiers aujourd'hui ? Bien sûr, on ne voit que le côté médical. Et le dossier, il est fait par le médecin de famille, qui lui voit la personne. Le dossier, pour un adulte, c'est la même chose. Il arrive au médecin de la MDPH qui ne voit pas, et qu'est-ce qu'il a comme raison de dire non ? Il faudrait encore qu'il voit la personne. Et comme il ne la voit pas, au CDCPH, CDAPH, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On traite 1000 dossiers dans l'après-midi et on signe en bas. Non, c'est pas possible de continuer comme ça. On triche avec la personne. On enfonce des gens qui ne sont pas handicapés dans le handicap et on en fait quelque chose qui, aujourd'hui, est une plaie. Alors, nous proposons que la réalisation d'un dossier soit faite avec 3 personnes. La première, un accompagnant, celui qui connaît le mieux la personne, celui qui est un familier, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, qu'il soit bénévole, avec un homme de soins, un médecin, et avec quelqu'un du social qui connaît. Et cette personne, ces 3 personnes, doivent faire le dossier et ne plus attendre de l'extérieur les piles qui arrivent tous les matins qu'il faut dépouiller. Le rôle de ces 3 personnes est d'accueillir la personne en lui demandant quel est son projet et s'il n'en a pas, de l'aider à le découvrir. Et de là, dans le projet, définir ce dont il a besoin comme aide technique, ce dont il a besoin comme aide d'accompagnement, ce dont il a besoin comme aide de soins. Une fois qu'on aura cet outil-là, on divisera par deux, voire par trois, le nombre de dossiers. En fait, lorsque nous avons regardé tous ces dossiers, nous avons vu que 20% étaient des dossiers sur lesquels nous avons une solidarité, une fraternité à apporter à nos concitoyens parce qu'ils sont atteints d'un polyhandicap ou d'une handicap assez lourd, mais à qui il faut proposer et donner une envie d'être autonome, ne serait-ce que pour choisir un DVD. Il y a 30% des dossiers qui sont des personnes qui sont devenues handicapées, mais pour lesquelles, dans tous les pays anglo-saxons, on rentre dans l'école de l'autonomie, c'est-à-dire que la première préoccupation, ce n'est pas de les enfoncer dans leur système, c'est de leur apprendre à reprendre la route de la vie. Et puis, il y a 50% des dossiers, on ne sait pas très bien ce qu'ils font là. Et c'est pour ça que nous proposons de créer une commission de 1600 médecins. C'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui dans les MDPH et ailleurs pour permettre de faire des dossiers qui soient le point, pas un point d'arrivée, mais un point de départ de l'école de l'autonomie, un point de départ de l'accompagnement approprié au projet de la personne, qui soit un point de départ d'un accueil dans une société, dans un droit commun. Nous proposons de soulager que les MDPH d'une administration qui n'est pas la leur. Le rôle de la MDPH est fondamentalement humain. Le rôle de la MDPH, c'est pas de s'occuper des cartes de stationnement. Et ça occupe un quart des effectifs. Et ça, il faut redonner ça à l'administration, aux ARS. Je ne sais pas si ça leur plaira, mais au moins, il faudrait leur proposer. Nous proposons aussi que la maison départementale de l'accompagnement, la maison départementale du handicap devienne la maison de l'accompagnement. D'abord, qu'elle soit plus proche et d'une plus grande proximité de la personne. Et pour ça, il y a 117 maisons départementales du handicap auxquelles sont adjointes environ 190 annexes et nous estimons, ce qui fait à peu près 300, et nous estimons qu'il faut, pour couvrir avec moins d'une demi-heure pour y aller, 600 maisons de l'accompagnement. La maison de l'accompagnement, elle sera le lieu où on connaîtra dans un bassin de vie la capacité du bassin de vie à accueillir, d'aider à trouver un emploi, mais que ça ne sera pas suffisamment loin pour se dire on oriente sans accompagner. Vous comprenez ? 600 maisons de l'accompagnement avec ce pôle du médecin, du social et de l'accompagnant pour définir les dossiers. Nous avons découvert avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étonnement que nous sommes probablement le seul pays d'Europe de l'Ouest à ne pas avoir d'école de domotique. Et on s'étonne qu'en plus 2005... on n'a pas de capacité à faire l'accessibilité, il n'y a pas de professionnel pour le faire. Chacun interprète comme il le veut et on fait des normes au travers des uns et des autres sans que pour autant il y ait un métier fondamental qui écoute ceux qui en ont le plus besoin. Nous pensons qu'aujourd'hui, en France, il faut 600 architectes domoticiens, créateurs de lieux de vie, et d'un bassin de vie accueillant et accompagnant. Enfin, comme l'histoire que nous avons vécue ensemble avec Romain, de découvrir qu'il était autonome et de l'encourager à l'être, il faut que nous soyons capables de créer une école de l'autonomie pour tous. L'école de l'autonomie pour tous, nous les avons appelés des CAP, de la cité de l'autonomie et du partage. C'est quoi la cité de l'autonomie et du partage? C'est un lieu où on vous donne envie d'être autonome, où on vous crée l'autorité, que ça ne soit pas la canne qui décide où on va. Je crois que nous allons avoir, avec cette capacité d'école de l'autonomie, nous allons avoir un élan de personnes qui auront envie d'être dans la vraie vie, et une personne vivant à l'écart coûte entre 2, voire 3, voire 4 fois une personne vivant dans la vraie vie. Vous voyez, ma grande copine Noémie Nolot, tétraplégique, trachéotomisée, qui est mon adjointe, qui ne vit qu'avec un bras, avec lequel, à la télévision, vous l'avez vu, elle se mettait du rimmel sur les yeux pour être belle. Et oui, Noémie, habitant dans un appartement individuel, seule, tétraplégique, coûte 64 000 euros et elle était orientée par une maison départementale du handicap pour être en maison d'accueil spécialisée à 120 000 euros par an. L'autonomie, c'est le partage. C'est la vraie signification aujourd'hui de la fraternité. On me demande souvent pourquoi j'ai mis liberté, égalité, autonomie. Celui qui est la personne qui va faire naître cette autonomie est la plus belle fraternité qu'il puisse donner, parce qu'il va donner la dignité, il va donner l'égalité des chances de la loi de 2005, il va donner la liberté à la personne. Et ça, c'est le vrai sens de la fraternité. Il ne faut pas oublier les personnes lourdement handicapées, comme Romain, comme Clément. Et les autonomies les plus petites soient-elles. Lorsque je suis allé aux Jeux Olympiques à Caligari, j'ai rencontré le maire, une personne qui ne parlait pas, une personne tétraplégique. Il était le maire qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver. Il avait une envie d'être autonome, celui-là. Qui d'entre vous accepterait qu'on décide à votre place? C'est ça, l'autonomie. C'est le respect de ça pour les autres. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut suivre l'action de Denis Piveteau à travers les zéros sans solution. Et c'est à travers, encore une fois, l'école de l'autonomie qu'on va trouver des solutions, parce que de temps en temps, le médico-social a trop tendance à faire son marché à la maison départementale en disant « je vais prendre les plus faciles ». et ils restent sur le bord de la route les plus difficiles. Alors il faut qu'on rende plus facile cet accueil, même par les professionnels, en créant des sas d'évaluation complexes pour les personnes les plus handicapées. C'est ce que nous appelons les sas. Et ces sas, ils existent dans de nombreux pays, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en Suède. Ils permettent à une personne d'être ce qui a été Romain après avoir découvert qu'il était plus autonome que moi. Enfin, il faut simplifier notre administration. Et je vous fais une proposition. Il faut que nous changions notre caisse primaire d'assurance maladie. Il y en a marre de la maladie comme client. Il faudrait faire la caisse primaire d'assurance santé. C'est le même tuyau au départ. Pourquoi en avoir fait 50 derrière? Parce que si c'était une caisse primaire de l'assurance santé, l'accompagnement et la prévention seraient et en feraient partie. Vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu d'être mis, encore une fois, dans un clivage qui fait que très peu, finalement, y ont droit. Pour ça, il faut former nos hommes. Il faut que, dans les écoles de l'accompagnement, on comprenne que c'est un rôle valorisant, que ce soit l'AMP, l'éducateur, le moniteur éducateur, que leur rôle est essentiel dans la société et qu'ils ne sont pas des matons, mais plutôt des hommes de talent capables de donner envie de l'autonomie, de donner de la vie et de ne pas être aussi enfermés que les gens qu'ils accompagnent. Et c'est pourquoi il faut qu'on change complètement cet aspect-là des choses. Et comme vous pouvez le voir, ça démarre aujourd'hui. Nous commençons à avoir des écoles qui y vont. Et je pense qu'avec le HESP, l'école des hautes études de santé publique, nous commençons à trouver un terrain qui va finir par faire naître. Enfin, notre dernière proposition est simple. Il faut nettoyer notre droit le plus possible pour que ce droit enlève tout ce qui est dans le droit un obstacle à l'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose que notre pays se dote d'un défenseur de l'autonomie qui prendra l'ensemble du droit et qui est au sécateur, enlèvera tout ce qui sera, je vais vous dire, la plus belle barrière pour moi de l'autonomie, c'est qu'à partir de 65 ans, avec la barrière d'âge, on n'a plus le droit d'être handicapé, on n'a le droit que d'être vieux. Je vous remercie de votre attention et merci de m'avoir écouté.
Merci, Monsieur Jacob. Et je tiens à vous dire, je pense au nom de tout le monde, que même si nous n'aurons pas malheureusement le temps de vous poser des questions, puisqu'un groupe attend, je pense, pour entrer, que, et pour vous paraphraser, nous ressortirons vraiment très riches de votre parole. Merci beaucoup. Il semblerait que nous acceptent 2-3 minutes supplémentaires. Donc, bien sûr, s'il y a des questions.
Moi, juste une remarque. Merci, cher Pascal, de cette leçon de vie. Ça fait plusieurs fois que j'ai la chance de vous écouter. C'est à chaque fois avec la même émotion. Et c'est tout ce que je voulais dire.
Oui, cher Pascal, moi, je te prie de m'excuser de mon absence, mais j'étais retenu par la commission d'enquête que je préside. En tout cas, je suis très, très heureux d'avoir pu soumettre la proposition d'accueil à la commission et que la commission, eh bien, enfin, le groupe d'études, pardon, ait bien voulu t'accueillir. Alors, moi, j'invite évidemment les uns et les autres. Toi, tu ne peux pas le faire, mais fais un peu de pub pour ton livre, parce qu'effectivement, même si tu as cité le titre « Liberté et autonomie », alors ça parle après « Il n'y a plus pas de citoyens inutiles », qui était ton premier ouvrage. Moi, je vous invite déjà rien qu'à lire les témoignages avant de passer aux propositions. Je pense qu'on en sort transformé et qu'on a envie de faire, finalement, faire à tes côtés. En tout cas, je suis très heureux que, eh bien, on t'ouvre tes portes.
Merci beaucoup, Paul, pour nous avoir permis, je l'ai dit tout à l'heure à M. Jacob, de l'accueillir aussi rapidement. Merci à toi.